texte de la déclaration, un extrait qu'elle fait à Pagello. Hein. Sur l'enveloppe, elle avait écrit « Au stupide Pagello ». Voilà. Alors qu'il s'obstinait à la vouvoyer, à la traiter avec beaucoup de respect. Et elle sentait donc qu'il avait prouvé déjà un début de passion pour elle. Par exemple, il lui demandait, eh bien madame, avez-vous l'intention de composer un roman qui parle de la belle Venise ? Peut-être, répondit-elle. Donc elle prit des feuillets et se mit à écrire avec fougue, puis mit les pages sous enveloppe et tendit l'enveloppe au docteur. Il demanda à qui remettre ce pli. Elle reprit l'enveloppe et écrivit au stupide Pagello. Rentré chez lui, il lut le texte romanesque, qui était une déclaration bien plus belle que celle que Georges prêtait au héros de ses romans. Notamment, elle écrit « Seras-tu pour moi un appui ou un maître? Me consoleras-tu des maux que j'ai souffert avant de te rencontrer? Sauras-tu pourquoi je suis si triste? Connais-tu la compassion, la patience, l'amitié? On t'a élevé peut-être dans la conviction que les femmes n'ont pas d'âme. Sais-tu qu'elles en ont une? Serais-je ta compagne ou ton esclave ?» Voilà. Donc, cette histoire d'amour qui naît avec Pagello, mais là, ça ne sera pas romantique, hein, on va dire. Ça sera un épisode parmi d'autres. Hein. Et donc, Musset, qui revient un petit peu de sa maladie, qui va bientôt se remettre et guérir, entrer en convalescence, il sent qu'il y a déjà la passion. Et il éprouve, il sent qu'elle fuit ou qu'elle s'éloigne. Et déjà, je vous dis, il a une âme sensible, une âme tourmentée, c'est un écorché vif. Et donc il sent les choses, il sent qu'elle s'éloigne et il a déjà un doute, une espèce de jalousie. Mais on verra que... On dit il aime Pagello, curieusement, dans ses écrits, il le témoigne, il y a de la sympathie, et Pagello aime Musset. Alors là, ça n'a rien d'homosexuel, mais il y a une amitié, voilà, c'est une histoire à trois, hein, quasiment. Donc il va bientôt rentrer à Paris, Musset. Il y a la séparation un peu qui se fait avec Georges. Il rentre à Paris le 29 mars 1834 et avec un serviteur italien. Il éprouve de la jalousie quand même, voilà, de la déception. Voilà. Et parce que sentant qu'elle en aime un autre, alors du coup, la jalousie réveille son propre amour, alors qu'il avait déclaré qu'il ne l'aimait pas, qu'il s'était trompé. Voilà. Et donc Georges va se mettre en ménage, là, tout benoîtement, avec Pagello, dans un petit appartement au-dessus d'une pharmacie, donc à Venise. Et ça va durer 5 mois, cette cohabitation. Alors là, elle écrit, parce que c'est une bosseuse, elle travaille tout le temps, elle passe ses nuits à écrire, elle noircit les pages, voilà. Elle écrit Jacques, c'est le titre, c'est souvent des prénoms, c'est vraiment qu'elle dédicace à Musset. Et puis elle commence la série des lettres d'un voyageur, voilà. Et alors, c'était vraiment un trio romantique. Et alors, on y pleure beaucoup aussi. Il y a du dévergondage. C'est vraiment parfois la chiennerie. Mais aussi, ça atteint des sommets. Des sommets de sublime. C'est des amours presque mystiques. Et alors, on y pleure beaucoup, comme tous les romantiques. Voilà. Et donc, je l'ai dit, les trois s'aiment. Voilà. Ils en témoignent dans leurs écrits. Ce pauvre Pagello, écrit Musset. Ce pauvre Musset, écrit Pagello. Voilà. Donc, l'amour de Musset pour Georges Sand va se renforcer aussi là, par la distance, par l'éloignement. Et donc, l'un et l'autre se manquent. Ils manquent l'un à l'autre. Et Pagello, il faut bien le dire, n'a pas la dimension, la stature d'un Musset. Il déçoit un peu Georges Sand. Il n'est pas tout à fait à la hauteur, on va dire. Il est beaucoup plus pragmatique. Hein. C'est un garçon concret, quoi. C'est pas. On peut citer le pauvre Moussaillon, écrit Georges. Mais alors, parlant de Musset. Hein. Et puis alors, mon camarade Georges, écrit Musset. Sois fier, mon grand et brave Georges, écrit Musset. Tu as fait un homme. Tu as fait un homme d'un enfant. Voilà. Et donc, ce sera le retour à Paris. Donc, Georges va rentrer à Paris et elle amène Pagello. Ils viennent tous deux. On est en juillet 1834. Et alors, à Paris, c'est le tout Paris des lettres. Alors, elle est très mal, mal vue, donc cette aventure, parce que c'était pas l'aventure en soi, mais c'était le personnage de Pagello, c'était, on l'a dit, un garçon solide, un peu enveloppé, qui n'a rien de romanesque, et alors ils sont déçus, le tout Paris des lettres, là, on s'attendait à un amant solaire, quoi. Comme le concurrent, un concurrent à la hauteur d'Alfred, et c'est pas le cas, quoi. C'est, voilà. Donc il déçoit le tout Paris des lettres, voilà. Et puis il devient jaloux aussi, il y a quand même la jalousie, c'est toujours des tourments. Hein. Et donc Musset, là, il revient à la charge, il essaye à nouveau de, disons, d'y reconquérir, c'est peut-être excessif, et de se remettre avec Georges, de retrouver l'amour de Georges. Et, in fine, Georges Sand revient à Nohant le 29 août 1834. Et quant à Pagello, donc ça sera la rupture, parce que leur idylle se fatigue. Ça a duré quand même 5-6 mois. Mais bon, il va retourner en Italie. Et il ne sera pas déçu, parce que malgré tout, il est entré dans l'histoire des lettres, hein, par cette relation avec Georges et puis aussi avec Alfred. Il en tire une gloire quand même, et il va se marier, il vivra jusqu'à 91 ans, quoi, et il aura une ribambelle d'enfants, voilà. Donc Pagello sort de la vie de Georges. Donc elle revient à Nohant, je l'ai dit, le 29 août 1834, Musset lui va faire un séjour à Baden, je pense en cure, également en août 1834. Donc ils échangent toujours des lettres sublimes, voilà, et c'est, qui font partie bien sûr de la littérature. Voilà. Et puis les retrouvailles se feront entre Alfred et Georges, mais ça sera toujours des amants terribles, des amants tourmentés qui se déchirent l'un et l'autre, et qui utilisent d'ailleurs leur déchirure pour leur œuvre. Ça nourrit leur œuvre. Hein. S'ils étaient tranquilles, bourgeois l'un et l'autre, ben, comment dire, il y aurait probablement du talent, puisqu'ils ont ce talent en eux, mais pas le génie. Hein. Le génie surgit de ces tourments, de ces déchaînements, voilà, de ces tortures. Donc, Musset est presque d'ailleurs masochiste, maniaque. Il questionne Georges sur ses relations avec Pagello. C'est presque du voyeurisme, voilà. Il a envie de se faire mal, quoi. Et d'ailleurs, on s'interroge, c'est sous la plume notamment d'André Moria, d'André Mauroy, ça paraît presque drôle, au moment où l'un et l'autre veillaient à l'hôtel d'Agnelli, Musset, qui était dans les affres de la drogue, dans les hallucinations, l'auteur s'interroge, s'est-elle donnée à lui à ce moment-là? Alors ça peut être un peu drôle, parce qu'elle se donnait très facilement, enfin, c'était pas le problème important, hein, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on revient au quai Malaquais, chez Georges, hein, mais ça sent un peu le réchauffer, et c'est encore les tempêtes suivies d'accalmie, voilà. Et bientôt, in fine, ça sera quand même la rupture, ça sera la rupture définitive, et Georges reviendra dans son asile de paix, dans son Nohant, hein, du Berry, qui est vraiment son lieu de, qui sera aussi d'ailleurs Nohant, un peu comme Copé, si vous connaissez un peu Madame de Staël, il y avait le château de Copé en Suisse, qui était devenu un lieu de un haut lieu, enfin intellectuel, et à Nohant, aujourd'hui c'est un musée, eh bien Georges accueillera les grands, le tout Paris des lettres, l'accueillera, je l'ai dit, bien sûr Chopin, outre Musset qui viendra, Chopin, Liszt, et l'accueillera Balzac, enfin, tous les grands de l'époque viendront à Nohant. Donc ça sera aussi un lieu mythique, un lieu de un temple aussi quand même de la littérature. Hein. Donc Nohant, puis le retour à Paris, voilà. Elle envoie des boucles de ses cheveux à Musset, donc c'est un amour qui ne veut pas finir, en fait, mais qui est en réalité donc terminé. Et on la voit par exemple sur un tableau de Delacroix avec ses cheveux courts, hein, Donc c'est une toujours un petit peu la dualité hein, de George Sand, le côté masculin, côté guerrier, c'est une guerrière, et puis le côté très féminin, le côté romantique, voilà, 19e. Voilà. Donc c'est ils se rencontrent, ils se retrouveront encore, mais bon, ça sera une ultime retrouvaille. Ça sera de nouveau des scènes, des orages, voilà, proche de la folie, voilà. Mais l'amour est mort entre eux. Donc ce fut une passion tourmentée, mais je l'ai dit, qui nourrit et qui nourrira leurs œuvres. Hein. Ces déchirures s'ouvriront et cette souffrance de leurs âmes, eh bien, exploseront en feu d'artifice dans leurs œuvres. Notamment, Musset s'en inspirera pour la confession d'un enfant du siècle. Et Georges écrira ses souvenirs aussi, voilà. Et donc c'est Nohant qui sera l'apaisement, le lieu quasi bourgeois hein, où elle trouve la sécurité, la sérénité, le château de sa grand-mère, hein, voilà. Nous reviendrons dans notre prochain épisode, enfin dans la deuxième partie, parce que le personnage est tellement riche, complexe, multiface, je veux dire, que tant dans son œuvre que dans sa vie, dans ses engagements, que bien sûr, n'importe, je crois, ça justifie parfaitement deux chroniques. Je disais que, en introduction, lorsque j'avais annoncé ce sujet, ce portrait, on va dire, qu'elle était un écrivain, plus qu'un écrivain, plus qu'une femme politique, elle était les deux d'ailleurs, mais c'est aussi une légende, hein. C'est une icône, hein, voilà. Elle dépasse, elle appartient vraiment à l'histoire. Alors, je vais vous citer quelques anecdotes, mais on y reviendra après. Parce que, alors, notamment à propos des grands hommes, hein, qui ont jalonné sa vie, hein, voilà. Et bien, quelques épisodes qui donnent un petit peu ce qu'elle était et l'icône qu'elle était, bien sûr, de son vivant. Alors, par exemple, je le vérifierai, aux obsèques de Sainte-Beuve auxquelles elle assistait. C'était en son temps un écrivain, un critique. Il avait été l'amant, mais l'amant platonique d'ailleurs, Sainte-Beuve, de l'épouse de Victor Hugo, d'Adèle Hugo, mais probablement platonique, hein, parce que bon, il semble qu'il avait des problèmes à ce niveau-là, sexuel. Bon, c'était un amour tendre probablement. Et donc, il avait présenté, je l'ai dit, Sand à Musset. Et puis, il faisait partie du Cénacle. Il y a un Cénacle où se retrouvaient ses auteurs, dont Sand, enfin, dont Balzac, enfin Sainte-Beuve, etc. Aux obsèques de Sainte-Beuve, auxquelles elle assiste, il y a le tout Paris, puis il y a la foule, hein, il est très connu. Elle quitte le cimetière, elle se hâte vers son fiacre pour éviter les mondanités. Et la foule la reconnaît. Et la foule s'écarte en voyant Georges. Elle va jusqu'à son fiacre et soudain elle se retourne. Il y a un impressionnant silence et spectacle qui sont surprenants. Les hommes lèvent leurs chapeaux, c'est une forêt de chapeaux. Voilà. Et citation aussi pour donner une impression de sa dimension, de ce qu'elle était, à ses propres obsèques auxquelles assiste Flaubert. Flaubert déclare « La femme qu'on enterre était un grand homme ». Voilà. Donc c'est un personnage que nous découvrirons dans notre prochaine chronique. J'invite vous lire, si j'ai le temps, j'ai une minute peut-être. Une minute, donc, ou deux, la préface de l'ouvrage de Jean Chalon sur Georges Sand, voilà. Alors, il écrit « Georges Sand n'est que passion multiples et contradictoires, passion du travail et passion du plaisir, qu'elle nomme pudiquement un embrasement céleste, passion pour son fils Maurice et passion pour ses amants, qu'elle considère comme autant d'enfants, passion pour la liberté et passion pour l'esclavage, passion des voyages qu'il entraîne en Italie ou en Espagne, et passion pour son refuge de Nohant. » passion pour les idées, pour les hommes et parfois pour les femmes. On a vu le Marie d'Orval, quand cette femme, comme une Marie d'Orval, qui est une actrice, qui est l'amante de Baudelaire, incarne en sa personne le théâtre romantique. Entre deux amours et la porte de son propre aveu, une même attention à la réussite de ses romans et à celle de ses confitures. Après chaque épreuve qu'elle qualifie de mortelle, elle ressuscite, parce qu'elle se croit malgré tout au bonheur. Elle croit malgré tout au bonheur, selon la définition qu'elle en donne à son ami Gustave Flaubert. Le bonheur, c'est-à-dire l'acceptation de la vie, quelle qu'elle soit. Et donc nous allons poursuivre, lors de notre prochaine chronique, la découverte et vivre à côté de ce fabuleux personnage qu'est Georges Sand. À bientôt, chers auditeurs.